Bonjour Alain Mercat, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SDRA. Vous êtes PUPH, chef de service de la réanimation médicale au CHU d'Angers et vice-président de la SRLF. Le sujet de ce podcast est donc le SDRA, dont vous êtes l'un des spécialistes de renommée mondiale. Le but de cet entretien est de répondre aux questions pratiques des jeunes réanimateurs. Dans quelles conditions de ventilation dois-je considérer que mon patient a un SDRA ?
En fait, votre question est le corollaire du problème du diagnostic du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Maintenant, on a des critères très précis qui ont été donnés par la définition de Berlin, publiée il y a maintenant plus de 2 ans. Mais on se rend compte que finalement, ils sont assez difficiles à utiliser en pratique clinique et les grandes études épidémiologiques montrent que dans un grand nombre de cas, les médecins ne font pas le diagnostic alors que tous les critères sont présents. Et donc ma réponse serait, il faut appliquer ces critères de Berlin et notamment, et de façon assez stricte, et notamment pour reconnaître les formes les moins sévères, qui sont celles qui sont le plus souvent ignorées.
Très bien. Alors comment régler le ventilateur ?
Alors très clairement aujourd'hui, la réponse est, il faut avoir une stratégie de ventilation protectrice, l'idée étant que l'objectif premier de la ventilation mécanique au cours du syndrome de détresse respiratoire est de prévenir au maximum les lésions pulmonaires induites par la ventilation. Ça passe par une réduction du volume courant et une adaptation du niveau de pression expiratoire à la gravité du patient avec très schématiquement une PEP modérée pour les SDRA mineurs et une PEP plus élevée pour les SDRA modérés à sévères, avec une question qui se pose au sein des SDRA de gravité modérée, et probablement dans cette population faire un test de PEP pour essayer d'adapter au mieux, patient par patient, ce niveau de pression expiratoire.
Faut-il s'inquiéter de l'acidose respiratoire et donc la corriger ?
C'est une question difficile. En fait, tout initialement, la ventilation protectrice avec une réduction du volume courant était considéré comme synonyme d'hypercapnie dite permissive. En fait, les derniers grands essais ont associé la réduction du volume courant à une augmentation de la fréquence respiratoire qui permettait d'éviter l'acidose respiratoire. La question de la nécessité de la corriger à tout prix n'est pas résolue, et notamment il y a des équipes extrêmement brillantes, je pense à l'équipe de Brian Cavanaugh à Toronto, qui plaident pour un effet bénéfique de l'hypercapnie sur le devenir des patients, notamment par le biais d'interactions avec la réponse inflammatoire et immunitaire du poumon. C'est un sujet délicat. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut... La priorité, c'est de protéger le poumon des lésions induites par la ventilation, qu'il faut essayer de maintenir le pH entre 7,35 et 7,45. Et en cas d'acidose respiratoire, la priorité doit quand même rester la protection du poumon contre les lésions induites par la ventilation.
Très bien, merci. Alors, le SDRA en 3 papiers majeurs, selon vous ?
Alors, 3 papiers majeurs. Un premier qui me paraît indiscutable, c'est le papier principe, c'est Ashbow et Petit, août 67, le Lancet, description initiale, 12 patients, une intuition absolument géniale. Ensuite, forcément... le concept de baby lung, donc c'est l'ensemble de l'œuvre de Luciano Gattinoni avec de nombreuses publications utilisant le scanner pour caractériser l'hétérogénéité d'aération au cours du syndrome de détresse respiratoire et le fait que le poumon aéré est de volume très réduit. Et ça a été un pas majeur de la compréhension du syndrome. Troisième papier, un papier qui me paraît incontournable, c'est la publication de l'essai ARMA en mai 2000. Dans le New England Journal of Medicine, qui montrait une réduction de mortalité de 10% quand on faisait passer le volume courant de 12 à 6 millilitres par kilo de poids prédit.
Très bien. Et enfin, la question surprise. Pourquoi faire de la réanimation en 2016 ou que diriez-vous à un jeune qui va faire de la réanimation en 2016 ?
Je lui dirais qu'il a raison, que moi j'en fais depuis 30 ans, que je reste passionné et que... Voilà, c'est une discipline qui permet de mêler l'attrait pour le soin et aussi pour la recherche clinique et un travail d'équipe absolument passionnant. Voilà, à dire le vrai, moi je sais pas pourquoi on ferait autre chose que de la réanimation.